Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Tout de suite, nous allons écouter Le Passeport Rouge de Inès Asmami.
J'avais tout le temps une petite remarque quand j'arrivais dans le bureau, l'agent de préfecture qui me regarde et qui me dit « Alors, encore un échec ?» Du coup, ouais, c'était vraiment une question d'intégration. Que tu sens que t'es pas genre à 100% chez toi alors que t'es né dans cet endroit-là, que... Mais t'es pas comme tous les autres gens. J'ai fait des demandes, puis là on m'a dit en fait t'es interdite de l'espace Schengen. Bah, t'es jamais un endroit en fait où t'es pleinement. Vas-y, c'est, t'inquiète, c'est chez toi, t'as ta place en fait. J'étais la première de la fratrie. Et du coup, bah, j'étais un petit peu l'enfant test, tu vois, le rat de laboratoire. Mes parents, ils me couvaient beaucoup, tu vois, surtout mon père. Mon père, il a une relation très particulière avec moi, parce qu'il a toujours voulu des filles, que des filles, il voulait que des filles, parce que religieusement, si t'as des filles et qu'elles finissent bien, qu'elles grandissent bien, qu'elles se construisent bien et tout, bah, du coup, ça t'ouvre, ça te fait monter dans les sept ciels, tu vois, chaque fille t'emmène un étage plus haut, du coup, il était très content d'avoir trois filles. Du coup, assez vite, mes parents, ils ont pris la décision de pas nous mettre à l'école marocaine, parce que c'est vrai que quand tu es à l'école marocaine, bah, tu passes énormément de tests pour pouvoir sortir du pays, t'as pas beaucoup de facilité pour ton avenir, en fait. Et du coup, bah, en fait, dès que j'étais toute petite, j'ai appris à parler français avant de parler arabe. Je savais lire le français avant de lire l'arabe. Mes parents me parlaient français, j'ai toujours parlé français avec mes parents. Quand on est à la maison, ça navigue entre les deux, mais majoritairement le français. Du coup, ça a quelque peu créé des petites divergences quand on grandissait, quoi. On voyait les différences. On était un peu vus comme les petits blancs de la famille, alors que pas du tout, quoi. Mais c'est vrai que avant de partir en France, je parlais quasiment pas arabe, quoi. Et c'est en revenant là, il y a un an et demi à Marrakech, que j'ai vraiment recommencé à... Parce que du coup, j'avais envie de sortir, de rencontrer du monde, et c'est vrai que bah, tu peux pas être marocaine et pas pouvoir aligner trois mots en darija, tu vois, genre... Et moi, j'avais pas envie d'être considérée comme étrangère dans mon pays. Et... Ouais. En fait, quand je suis partie, je voulais plus venir... Enfin, je voulais plus vivre au Maroc, parce que c'est pas mon milieu, quoi. C'est pas mes mœurs, c'est pas ma mentalité. La France non plus. Mais en fait, vu que j'ai pris des deux, bah, je me sens à l'aise ni dans l'un ni dans l'autre, parce que y a dans l'un comme dans l'autre, il y a des choses qui me plaisent pas, tu vois. Être une femme au Maroc, c'est très compliqué, mais être une arabe en France, c'est très compliqué aussi. Du coup, ben, dans les deux cas, c'est galère, quoi. quand j'étais petite, le fait d'être baignée plus dans le français que dans l'arabe, je l'encadrais pas vraiment. Enfin, j'en avais pas spécialement conscience parce que bah, quand t'es petit, bah, tu vois pas la différence des gens. T'es juste, t'acceptes tout le monde. Enfin, tout le monde pour toi c'est pareil, quoi. C'est plus tard que j'ai vu le fossé qui nous séparait. Ouais, du coup, c'est quand même vachement creusé ce rapport-là avec celui qui parle français. Est-ce que considéré comme une langue un peu supérieure, c'est enfin, je pense que ça vient clairement du protectorat, tu vois. C'est genre, le français est considéré comme un être supérieur quelque part, tu vois. Donc il y a ce rapport-là à moitié de haine et d'admiration en même temps. C'est vraiment bizarre, c'est une petite schizophrénie sociale, quoi. On va tout faire pour que le français se sente bien, mais en même temps, on l'aime pas trop parce qu'on a conscience de ce qui s'est passé, de ce que lui a et de ce que toi t'as pas. Et quand t'es dans ma situation, où tu grandis le cul entre deux chaises, entre deux identités, parce que bah, du coup, depuis toute petite, je parle français, je pense en français, quand je rêve en français, pourtant je suis marocaine, j'ai pas les droits des gens français, enfin j'ai pas de passeport rouge, donc aux yeux de la loi, je suis considérée comme une marocaine, mais aux yeux des marocains, je suis pas forcément considérée comme une marocaine. Et ouais. C'est vrai que quand j'étais plus petite, j'essayais pas forcément d'aller m'ouvrir sur ma culture natale à la base, quoi. J'étais vraiment bien plus francisante que avant même d'aller en France, quoi. J'étais bien plus française que marocaine, alors que j'avais jamais quitté. Enfin, si, j'avais voyagé, mais j'avais jamais vécu ailleurs qu'au Maroc, à Marrakech, quoi. Et c'est après, en fait, quand j'ai vécu en France, que j'ai décidé de faire un retour sur dans mes sources, quoi. Retour à la source, quoi. Mais ouais, c'est après. C'est bien après que j'ai ressenti ce besoin-là de renouer avec une culture qui peut-être m'accepterait finalement, tu vois. Genre, je me sens pas paria non plus, hein, dans ma vie de tous les jours, mais c'est vrai que tu te sens chez toi nulle part. Moi, j'étais entourée de faux beurs, des faux rebeux, tu vois. D'ailleurs, quand maintenant encore on me dit la vraie fausse arabe, comme les vraies fausses marques qu'on vend à la Médina, c'est une vraie fausse arabe, quoi. Et ça fait mal d'entendre ça, c'est pas agréable, quoi. Mais quelque part, c'est pas faux, parce que j'ai clairement pas eu la même vie que. J'ai été trop chanceuse de tomber sur mes parents qui ont pu avoir accès à une éducation assez poussée, ils ont pu aller assez loin dans leurs études et donc vivre mieux que la plupart des gens qui vivent au Maroc. Je me suis jamais construite en fonction de mes parents. Genre, j'ai jamais été en parallèle avec eux, j'ai toujours été en perpendiculaire. Donc c'était vraiment... Ça a été compliqué avec eux, mais je me suis jamais identifiée à genre « Ah, je viens d'une grande famille, ah, mon nom de famille, machin, machin. » Enfin, jusqu'à maintenant, tu vois, quand les gens me demandent comment je m'appelle, j'avance pas mon nom de famille parce que je sais que ça traîne une certaine image derrière et que ça, c'est déjà assez compliqué avec... mon apparence, mais si en plus les gens se disent « Ah, elle vient de telle famille, nanana », ça rend la tâche encore plus délicate, quoi.
Merci à ton mari.
Tu l'as gazé avec la mazette.
Merci à ton mari, t'as fait ton voyage avec
ton premier passeport.
Ok. Ton premier passeport, c'est...
Quelle heure. Là, ils sont...
C'était pas bien ?
Tout à l'heure.
C'est le passeport français.
Non, moi aussi.
J'ai grandi comme une assistée, enfin comme une princesse, mais ça veut clairement dire assistée, quoi. J'ai toujours été assistée par mes parents, c'est tout pour moi, et là d'un coup je me retrouvais dans un pays que je connaissais pas, où on m'acceptait pas forcément, mais où bah, je parlais la langue, donc ça allait déjà mieux que ceux qui arrivaient en ayant un accent. Où je devais aller faire mes papiers 10 000 paperasses parce que voilà, bah, t'es marocain, quoi, donc faut que tu justifies ton existence à tout bout de champ. On te demande de te justifier, d'exister, alors que de base, avant même de partir du Maroc, on te demande de bloquer des sommes faramineuses à la banque pour être sûr que tu vas pas avoir encore ça. Je peux comprendre, tu vois. Ça, c'est pas quelque chose qui m'interloque. C'est oui, ok, tu vas aller dans un autre pays. Il faut que t'aies tes propres ressources. Parce que tu vas pas juste aller sans avoir rien à apporter et arriver et vouloir tout prendre. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et les gens pensent que c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, non, parce que c'est une véritable galère de pouvoir passer d'une frontière à une autre. Et surtout pour étudier, donc faire un bout de vie dans cet endroit-là. Donc en fait, ouais, tu dois bloquer quelque chose comme... Alors, t'as les frais de séjour pour 12 mois, donc si tu pars du principe qu'il faut bloquer minimum 600 euros de frais de séjour et 600 euros ou 500 euros de loyer, donc t'atteins vite les 1100 par mois, fois 12, à bloquer à la banque, sachant que notre devise n'est pas du tout la même. Enfin, mon père a dû faire des sacrifices énormes pour que je puisse accéder à l'éducation à l'étranger, quoi. Chaque fois que j'allais à la préfecture, vu que j'ai changé pas mal de fois de parcours, j'avais tout le temps une petite remarque quand j'arrivais dans le bureau, l'agent de préfecture qui me regarde et qui me dit « Alors, encore un échec ?» J'étais là, mais mec, j'ai 18 balais, je fais des crises d'angoisse rien qu'à penser que peut-être que dans 2 mois, j'ai plus rien de ce que je suis en train de faire. À ma première année, j'avais mon visa étudiant, donc j'avais pas besoin. Et comme je suis arrivée en étant mineure, j'avais pas besoin de faire le truc de l'OFII où tu fais un certificat de bonne santé. Parce que c'est comme les chiens quand ils doivent quitter le Maroc, il faut leur faire passer le vaccin contre la rage. Mais là, c'est avec les humains, donc tu vois vraiment à quel point on te fait sentir comme du bétail. Du coup, ma première année, ils m'ont pas demandé, comme si un mineur pouvait pas transporter de maladie. La deuxième année, je suis passée en titre de séjour, donc il fallait que j'aille à l'OFII en France. Donc tu arrives à une préfecture particulière où tu as l'OFII, donc le test de bonne santé pour les étrangers. Et la deuxième fonction de cette préfecture, c'était le service technique des voitures. Donc rien à voir les deux. C'est 2 seules choses proposées dans cette préfecture-là, et les 2 choses qui n'ont rien à voir, mais psychologiquement, quand tu vois ça, t'arrives, c'est pas une salle d'attente, c'est un couloir. Les chaises sont les unes en face des autres, on te donne un papier avec ton numéro dessus. On t'appelle pas par ton prénom quand on vient te chercher, on t'appelle par ton numéro. Y a personne qui t'explique ce qui va se passer, tu rentres dans un sas. T'as 2 portes, tu sais pas ce qui se passe derrière l'autre porte, il y a juste écrit « déshabillez-vous et pliez vos vêtements ». Tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté. On vient t'ouvrir, t'as 3 médecins, t'es en sous-vêtements. Premier contact avec les gens, genre eux sont entièrement habillés, ils sont 3 et toi t'es toute seule en sous-vêtements, tu vois. Et on t'appelle par un numéro et t'es, enfin vraiment, c'est resté, tu vois, jusque maintenant, je vois parfaitement toute cette scène. T'es médecin, t'as une déontologie, normalement, il y a un rapport, une alliance que t'es censé créer avec ton patient, juste même si tu me vois pour 10 minutes, quoi. Enfin, même, je suis un être humain, genre, j'ai des émotions aussi, genre, j'ai un... Enfin, et voilà, genre, j'étais jeune en plus, donc voilà. Et du coup, et après, on te donne un papier, où ce qu'il y a écrit en gros, c'est « Remplis les conditions sanitaires pour vivre en France ». Sanitaire, comme les chevaux, comme les vaches, comme les... Enfin, tu vois, genre, c'est du bétail, quoi. Genre, t'as un pauvre numéro avec écrit ça en dessous et t'es censé emmener ça à la préfecture pour valider le fait que tu sois là, alors que ça faisait déjà 1 an et demi que je vivais sur place. Il y avait aucune raison à ce test. Aucune. Il y avait pas de logique, il y avait pas de sens, mais c'était pas un moment agréable et c'était juste comme ça. Comme ça, tu vois, genre, faire vivre aux gens de ce genre de moment. Pour bien te faire sentir que t'es pas chez toi, tu vois, genre... Du coup, ouais. Si, t'en as ras le cul à la fin. Moi, je voulais juste que ça se finisse. Je voulais juste finir ma formation et repartir. qu'en gros, quand ils m'ont dit que je n'aurais plus mon prochain, que je n'aurais pas mon prochain récépissé, je me suis dit, bah en fait, ma formation, ça c'était en juin, mon récépissé se terminait en juin, et j'en aurais plus, et ma formation se finissait en novembre. Donc j'ai dit, ok, ça marche, bah, je vais vivre dans l'illégalité pendant de juin à novembre. Sauf que, bah, du coup, avant de faire ça, j'ai dit à mes parents, bah, j'ai envie de venir vous voir, parce que je vais pas pouvoir quitter le territoire avant super longtemps, et sachant que ça faisait quasiment un an que j'étais pas rentrée, j'avais besoin de voir mes parents, quoi. Que je suis partie avec un sac à dos, pas de bagages en soute, j'avais trois culottes sur moi, et j'ai laissé toute ma vie derrière pour une semaine, normalement. Et arrivé le jour de mon avion de retour, ils m'ont bloqué à la douane. Ils m'ont dit, bah non, vous pouvez pas passer, vous avez pas le droit de retourner en France. Au Maroc, ils m'ont pas laissé prendre l'avion au Maroc. Parce que c'était écrit dans le système, quoi. Bah, que je pouvais pas repasser. Alors que mon récépissé était toujours valide, hein, mais vu qu'ils voulaient plus me donner de titre en carte, et que la carte c'est le seul truc qui te valide, normalement ils auraient dû me le dire en France, dans le billet d'avion, enfin avant l'avion d'aller, me dire, bah en fait vous risquez d'avoir des problèmes au retour, parce que vous avez pas une carte, vous avez qu'un récépissé. Et sauf qu'ils m'ont pas dit. Et ils m'ont dit, est-ce que vous avez une carte? J'ai dit, bah non. Ils m'ont fait, ok, pas de souci, et ils m'ont laissé passer, genre, voilà. Et sauf que, bah, en fait, moi j'avais toute ma vie, quoi. Du coup, je me suis retrouvée là, puis j'ai fait des demandes, puis là, on m'a dit, en fait, t'es interdite de l'espace Schengen. C'était pas juste, tu peux pas retourner en France, c'est que t'as pas le droit de poser le pied en Europe. Comme si j'étais une terroriste ou je sais pas quoi, quoi. Ouais.
Et maintenant, comment tu te sens?
Ben, frustrée un peu, mais après, voilà, j'ai toujours été considérée comme la petite occidentalisée dans ma famille, tu vois, genre... Là, quand je suis revenue de France, j'avais mes piercings et tout, ma dégaine. Ah ouais, mais tu t'es trop européanisée, tu t'es trop occidentalisée. Mais en fait, non, parce que même en France, ma dégaine, elle passe pas comme genre commune. Je me suis pas occidentalisée, je me suis marginalisée de toutes les sociétés. Ça a rien à voir avec le fait d'être en Occident ou en Orient, quoi. Et ça, pour le faire entendre aux gens, parce que t'arrives dans une société avec le conditionnement bien ancré dans les deux pays, tu vois. L'un a des préjugés sur l'autre, l'autre pareil. Et c'est très marqué et il faut apprendre aux gens à pas s'arrêter à ça, tu vois.
Vous venez d'écouter Le Passeport Rouge de Inès Asmami. Vous pouvez réécouter cette émission sur jetfm.fr. Tout de suite après, retrouvez l'émission Chemin d'Afrique par Calomé.